l'actualité.
33 9 693 693 70.
Romain Ozoui.
Soyez les bienvenus dans votre émission. Le standard est ouvert. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, c'est la libre antenne. Hein, vous connaissez le principe. Vous réagissez au sujet de votre choix. Ce n'est pas forcément le sujet qui fait la une de l'actualité. C'est le sujet qui vous a interpellé, quel qu'il soit. Vous souhaitez en débattre. Appelez-nous 33 9 693 693 70. Et bien évidemment, comme chaque matin, les réseaux sociaux. J'aurai le plaisir de lire certains de vos messages à l'antenne. Tout ça, donc, ce sera dans la seconde partie d'appel sur l'actualité. Pour le moment, c'est l'heure de vos questions à la rédaction. Et on commence tout de suite avec Landry Roland. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Landry Roland. Vous êtes à Yaoundé et vous avez une question qui est liée à votre pays, le Cameroun. On vous écoute, Landry Roland.
Oui, tout à fait. J'ai une question sur la visite du président Paul Biya à Genève. J'ai entendu qu'un rassemblement de militants s'est organisé devant l'hôtel du président Paul Biya, actuellement en séjour privé à Genève. À propos, j'ai deux questions. Mmh. Quels sont ces manifestants? Quelles sont leurs revendications? Et s'associent-ils à un mouvement ou à un parti politique?
Alors, Landry Roland, vous évoquez effectivement ce qui s'est passé samedi dernier à Genève, en Suisse. Paul Biya se trouvait depuis une semaine sur place et des militants se sont rassemblés aux abords de son hôtel. On va répondre à votre question, Landry Roland, avec Charlotte Cossé du service Afrique de RFI qui est à nos côtés en studio. Charlotte, d'abord, que peut-on dire de ces manifestants?
Alors, ces manifestants sont des Camerounais de la diaspora. Alors, certains vivent en Belgique, d'autres en France ou en Suisse ou encore en Allemagne. La plupart appartiennent à des collectifs militants. Le plus connu et sans doute le plus actif, la Brigade des Anti-Sardinards, qui revendique aussi des membres aux États-Unis ou encore au Canada.
Alors, Brigade des Anti-Sardinards, c'est assez étonnant comme nom. Ça vient d'où?
Alors, la Brigade des Anti-Sardinards, ou encore la BAS en réduit, décrit que pour inciter les populations à venir au meeting du parti au pouvoir, des distributions de pain et de sardines sont organisées au Cameroun. Alors en réaction à ce phénomène, les anti-Paul Biya se sont donc auto-qualifiés d'anti-sardinards, les contre les distributions de sardines, et leurs membres sont appelés, dans un vocabulaire un peu plus guerrier, des combattants. Alors, la BAS s'est créée au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, qu'elle qualifie de hold-up électoral. C'est un mouvement d'opposition au président camerounais qui se dit laïque et apolitique, bien que certains de ses membres soutiennent ouvertement l'opposant à Paul Biya, Maurice Kamto. Alors, leur objectif premier est bien sûr obtenir l'alternance politique au Cameroun. La guerre dans la zone anglophone est aussi une question qui est régulièrement abordée par ce collectif. La corruption, la santé, les infrastructures publiques sont autant de sujets dont s'emparent ces anti-sardinards. Et de manière plus terre-à-terre, ces actions, qui sont relativement bien médiatisées, ont pour objectif de donner de la visibilité à leur cause en Europe notamment.
Donc voilà pour le profil des manifestants, ces anti-sardinards qui se sont retrouvés la semaine dernière devant l'hôtel de Paul Biya en Suisse. Landry Roland, on vous retrouve, vous avez une deuxième question.
Oui. En dehors de cette manifestation, organise-t-il d'autres actions?
Alors, effectivement, là, ça ressemble à un coup d'éclat. Est-ce qu'on retrouve cette brigade des anti-sardinards ailleurs?
Alors oui, déjà, ces manifestations sont relativement régulières à Genève parce que le président y vient régulièrement en séjour privé. Paul Biya y a ses habitudes au luxueux hôtel intercontinental. Alors, lors de son dernier séjour, il faut revenir en 2019, des militants avaient réussi à entrer dans l'hôtel. Une bagarre avait éclaté avec des membres du service de sécurité du chef de l'État. Un journaliste suisse avait été molesté par ces derniers. Beaucoup de désordres et de médiatisation qui avaient déplu aux autorités suisses et qui avaient finalement contraint le président Biya à écourter son séjour. Alors, la BAS dénonce régulièrement le temps passé par le président hors du Cameroun. Une enquête à partir des archives de la presse nationale estimait il y a quelque temps que Paul Biya a passé plus de 4 ans et demi en dehors du pays à l'occasion de ses voyages privés. Alors ça, c'est pour les manifestations qui sont récurrentes. En termes d'autres actions qui ont fait beaucoup de bruit, on a les saccages des ambassades du Cameroun en France ou encore en Allemagne. Ces faits remontent à 2019. Des militants avaient envahi notamment l'ambassade à Paris, faisant des dégâts matériels. Ils avaient symboliquement détruit le portrait du président Biya. Trois de ces militants ont été condamnés en France à plusieurs mois de prison avec sursis début juillet. Enfin, on peut noter parmi les grandes actions de ce collectif le boycott des artistes qui soutiennent Paul Biya à la manière congolaise. Une action très suivie il y a 3 ans. La chanteuse Katino n'avait pas pu tenir son concert à Paris en octobre 2018. Même chose pour le chanteur Ben Deka qui devait se produire en région parisienne ou encore en Allemagne à la même période. C'est Coco Argenté qui avait vu son concert être annulé à cause encore cette fois-ci de la basse.
Charlotte Cossé, est-ce que vous avez eu les réponses à vos questions, Landry Roland?
Merci, je suis satisfait. Bonne journée à vous.
Et bonne journée à vous également à Yaoundé. La deuxième question du jour nous est posée à présent par Patrice depuis Pointe-Noire au Congo. Bonjour Patrice, soyez le bienvenu.
Bonjour Romain, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Je suis plutôt Mohamed, je vous appelle de Bamako.
Vous êtes à Bamako, d'accord.
Oui, évidemment.
D'accord, la capitale malienne. Alors allez-y Patrice, nous vous écoutons.
Voilà, c'est Mohamed. J'ai lu sur RFI que les États-Unis renoncent à bloquer le projet du gazoduc Nord Stream 2. Alors, j'ai une première question d'abord. Comment expliquer ces revirements?
Alors, on a perdu la liaison avec Patrice. Depuis Pointe-Noire. Est-ce qu'on n'était pas plutôt avec Mohamed depuis Bamako? C'est la question que je pose. On va essayer d'appeler Patrice. C'est pour ça que j'étais étonné quand vous m'avez dit que vous étiez à Bamako. Et il ne s'agissait pas de Patrice, il s'agissait bien de Mohamed. Est-ce qu'on peut appeler Patrice à Pointe-Noire au Congo?
Oui, bonjour, bienvenue à Pointe-Noire.
Ah ben voilà, c'est bien vous Patrice, je ne m'étais pas trompé. Allez-y, nous vous écoutons Patrice, posez votre question.
Oui. 4 distributeurs de médicaments américains ont proposé de payer la somme de 26 milliards de dollars pour mettre fin aux procédures judiciaires qui les accusent d'avoir rendu des millions d'Américains dépendants aux médicaments opiacés. Que représente cette somme d'argent par rapport au coût réel de la crise?
Alors, vous faites référence à un des grands sujets de société effectivement actuellement aux États-Unis, la crise des opiacés. C'est un véritable fléau. 500 000 morts aux États-Unis, c'est un chiffre impressionnant. On va répondre à votre question, Patrice, avec Magali Barbieri, directrice de recherche à l'INED. L'INED, c'est l'Institut National d'Études Démographiques. Vous avez, Magali Barbieri, publié plusieurs travaux en lien avec ce sujet, la crise des opiacés aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez revenir, pour Patrice, brièvement, sur cette crise des opiacés, où trouve-t-elle sa source?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Effectivement, je travaille depuis quelques années sur ce sujet, qui est un sujet important, qui a été, jusqu'à la période récente avec la pandémie de Covid, qui était la crise de santé publique numéro 1 aux États-Unis, avec effectivement, vous l'avez dit, 500 000 morts jusqu'à présent, une nouvelle explosion en 2020, puisque le nombre de décès total par overdose dû aux drogues diverses, essentiellement des opiacés, mais pas seulement, se situait autour de 70 000 en 2017, a diminué un peu en 2018, a repris en 2019 et a atteint presque 100 000, 93 000 pour être plus précis, en 2020. Donc un problème de santé publique considérable quand on compare avec le Covid qui a certes fait 700 000 morts en une seule année, mais le nombre cumulé de décès depuis le début de la crise qui date de la fin des années 90 est considérable. Donc l'accord auquel...
Alors avant d'évoquer l'accord, pourquoi cette crise des opiacés? Où est-ce qu'elle trouve ses origines?
Alors la crise actuelle trouve ses origines à la fin des années 90 avec l'autorisation par la Food and Drug Administration qui est l'agence gouvernementale chargée de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments aux États-Unis. Donc en 1998, il est décidé que les médicaments antidouleurs relativement puissants à base d'opiacés qui étaient jusqu'à présent utilisés uniquement pour des malades en fin de vie, essentiellement des malades du cancer en fin de vie souffrant de grosses douleurs, pouvait être utilisé en médecine générale pour dans des situations telles que mal de dos, mal aux genoux, enfin ce que nous on considérait comme des problèmes de santé ne nécessitant pas ce type d'intervention. Enfin,
Or là, il y a eu une prescription, une surprescription de ces médicaments antidouleurs.
Voilà, donc les compagnies pharmaceutiques qui avaient favorisé cet accord ont lancé des campagnes. Alors d'abord, des campagnes de démarchage auprès des médecins avec un ciblage particulier des zones géographiques et des zones, notamment les bassins industriels les plus vulnérables. Du lobbying auprès de scientifiques qui étaient payés pour publier des articles sur les avantages et l'efficacité des antidouleurs. Et puis, surtout, un énorme effort de minimisation des risques d'addiction de ces antidouleurs. Et puis, des négligences aussi en matière de surveillance, puisque les laboratoires sont censés, qui distribuent ces médicaments, en partenariat avec les chaînes de distribution, sont censés surveiller la consommation de ces médicaments qui sont tout de même connus pour être addictifs.
Et c'est ainsi qu'il y a eu effectivement cette promotion des antidouleurs. Patrice avait une deuxième question à propos de cet accord, donc des 4 distributeurs de médicaments américains qui proposent de payer la somme de 26 milliards de dollars pour mettre fin aux procédures judiciaires qui les accusent justement d'avoir rendu ces millions d'Américains dépendants aux opiacés. Patrice voudrait savoir qui va percevoir cette somme d'argent et où est-ce qu'elle va être investie finalement ?
Alors, pour répondre à sa première question, d'abord, que représente cette somme ? Donc, cette somme est considérable, 26 milliards de dollars, mais elle représente une goutte d'eau par rapport au coût réel de l'épidémie, puisqu'il y a un rapport de la Société des actuaires américaines qui a évalué ce coût total de la crise à 630 milliards de dollars, à mettre en rapport avec ces 26 milliards. Donc, et uniquement pour la période 2015-2018. Donc,
où va aller on a compris que c'était une goutte d'eau, comme vous dites, même si ça semble important. Où va aller l'argent ? Je me permets d'accélérer parce que le temps tourne.
Donc, l'argent sera réparti entre les États qui vont accepter l'accord. Pour le moment, il y en a uniquement 7, mais il faut qu'il y en ait plus pour que l'accord soit signé. Et leurs avocats qui vont toucher 2 milliards sur ces 6 milliards. Et l'argent sera utilisé normalement exclusivement pour lutter contre la crise elle-même, c'est-à-dire pour financer les traitements contre les addictions.
D'accord.
Pour les campagnes de prévention et les autres dépenses liées à la crise. Mais ce sera les États qui décideront comment,
ils vont redistribuer cet argent.
Voilà, exactement. D'accord. Et comment l'argent sera utilisé.
Eh bien, merci Magali Barbieri. Patrice, est-ce que vous avez eu vos réponses ?
Tout à fait, merci beaucoup.
Je vous en prie, nous accueillons à présent Mohamed. Mohamed, bonjour.
Bonjour Romain, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes dans la capitale malienne Bamako et vous avez une question d'ordre économique.
Évidemment. J'ai lu sur RFI que les États-Unis renoncent à bloquer le projet du gazoduc Nord Stream 2. Alors, j'ai une première question. Comment expliquer ce revirement de Washington ?
Alors, vous faites référence à un dossier qui était effectivement ces dernières années au cœur d'un blocage à la fois diplomatique et économique, Nord Stream 2. Pour y voir plus clair, pour répondre à vos questions, Agnieszka Kumor du service économie de RFI est en ligne avec nous. Agnieszka, c'est la question de Mohamed ce matin. Pourquoi les États-Unis ont ainsi bloqué ce projet pendant plusieurs années et pourquoi aujourd'hui il y a cet accord ?
Ce revirement, effectivement, est inattendu. Cet accord avec l'Allemagne, c'est plutôt une victoire pour la Russie et l'Allemagne. D'ailleurs, le Congrès américain s'y est opposé. Il s'y oppose tout le temps. Les démocrates et les républicains veulent garder en place les sanctions contre Nord Stream 2. Ils dénoncent ce qu'ils appellent un cadeau fait à Poutine. Les États-Unis déplorent d'ailleurs que ce gazoduc passe par la mer Baltique et pas par l'Ukraine, menaçant de priver ce pays d'une partie des revenus perçus sur le transit, mais aussi d'un moyen de pression sur Moscou. Pourtant, l'administration du président Joe Biden a choisi de ne pas enterrer complètement le projet. Washington a privilégié la négociation d'un pacte avec l'Allemagne dans le but d'empêcher la Russie de se servir de l'énergie comme d'une arme politique pour nuire à l'Ukraine ou d'autres pays de la région. C'est une des clauses de l'accord. Mais pour les experts, les contreparties obtenues par les Américains sont assez faibles.
Donc voilà pour les grandes lignes de cet accord, Agnieszka. Mohamed, un autre point de ce dossier que vous souhaitez soulever, on vous écoute ?
Oui, ce gazoduc contourne également l'Ukraine. Alors, des garanties sont-elles prévues pour la protéger des pressions russes et compenser financièrement la perte des revenus à venir?
Alors, effectivement, c'était l'une des raisons du blocage américain, le fait que le gazoduc ne passe pas par l'Ukraine. Agnieszka, quelle garantie face à cela apporter à l'Ukraine pour que finalement l'Ukraine ne soit pas le grand perdant de ce dossier?
Eh bien, dans cet accord, il est question surtout d'aides financières qui pourraient aller vers les projets de transition énergétique en Ukraine, projet auquel l'Allemagne devait initialement contribuer à hauteur de moins 150 millions d'euros. Mais rien de nouveau là-dessus, puisqu'il s'agit d'investissements qui étaient déjà promis. Outre la Russie et l'Allemagne, qui sont les grandes gagnantes, pour les autres parties, cet accord est donc un vrai risque. Rappelons que les revenus générés par les frais de transit payés par la Russie et l'UE représentaient 3% du PIB ukrainien en 2017. Nord Stream 2, reliant directement la Russie à l'Allemagne, permettra donc à la Russie et à l'UE d'économiser ces frais de transit. Mais c'est un énorme manque à gagner pour l'Ukraine. Comment sera-t-il compensé? D'accord, ne le dis pas.
Eh bien donc, à suivre. Merci à Agnieszka Kumor et merci à Mohamed de nous avoir appelés depuis Bamako. Très bonne journée à vous deux. Bouna, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est déjà l'heure de notre dernière question de ce matin. Bouna, vous êtes à Nouakchott en Mauritanie. Allez-y, nous vous écoutons.
Moi, j'ai été surpris d'apprendre le retrait du port de Liverpool de la liste des sites placés au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai deux questions. D'abord, pourquoi cette décision et quel processus permet de déclasser un lieu du patrimoine de l'UNESCO et est-ce récurrent? Ensuite, quelles peuvent être les conséquences pour Liverpool et l'Angleterre? La décision est-elle irréversible?
Alors, c'est une décision effectivement qui a été annoncée mercredi. L'UNESCO qui retire le port de Liverpool dans le nord-ouest de l'Angleterre de sa liste du patrimoine mondial. Alors, on peut être surpris hein, finalement que des sites ainsi puissent être retirés de l'UNESCO. Pour répondre à votre question, Bouna, on est en ligne avec Isabelle Anatole Gabriel, chef Europe et Amérique du Nord au centre du patrimoine mondial. Première réponse à la question de Bouna. Pourquoi cette décision et comment a-t-elle été prise?
Bonjour, oui, je crois Bonjour. Que c'est une question importante parce qu'il faut clarifier ce processus de décision. Tout d'abord, la liste du patrimoine mondial est rattachée à une convention internationale, la Convention du patrimoine mondial culturel et naturel. Et cette convention est suivie par un comité, le comité du patrimoine mondial, qui est un comité intergouvernemental et souverain. Et c'est ce comité qui prend les décisions et non pas l'UNESCO. L'UNESCO est le secrétariat de la Convention du patrimoine mondial. Pour ce qui s'agit de Liverpool et donc de cette décision, qui est effectivement une décision extrêmement rare, c'est arrivé 3 fois dans l'histoire de la Convention, donc depuis sa mise en œuvre, son adoption en 1972. Quand un État parti choisit librement d'adhérer à la Convention du patrimoine mondial, il s'engage à en respecter les règles. Et parmi ces règles, il y a la protection de son patrimoine national. Et il y a aussi la protection d'un patrimoine qu'il choisit librement, là encore, sur la liste du patrimoine mondial.
Voilà, je me permets d'accélérer parce que c'est bientôt la fin de notre émission. Là, c'était pas le cas. Il y avait des menaces un petit peu sur ce patrimoine.
Quand un État inscrit un dossier, il définit des critères. En l'occurrence, pour Liverpool, il s'agissait de protéger tout ce qui était visible, qui restait du grand port marchand du 18e et du 19e siècle. Il se trouve que Liverpool et l'État parti d'Angleterre ont décidé de développer, de mettre en œuvre des grands projets de développement qui modifiaient l'ensemble de ces structures et en particulier les docks.
Je vais déjà vous couper, je suis désolé, le temps tourne, mais je vais citer effectivement de hauts immeubles et un nouveau stade de football qui était accusé, comme vous l'avez si bien dit d'ailleurs Isabelle Anatole Gabriel, et bien d'endommager le patrimoine du port de Liverpool. Le temps tourne parce que c'est déjà la fin de notre première partie d'appel sur l'actualité. Merci à Bouna depuis Nouakchott, très bonne journée à vous. Restez à l'écoute hein, juste après le journal, la libre antenne. Vous nous appelez sur le sujet de votre choix, 33 9 693 693 70.